exercer. Deux questions. Comment, selon vous, l'arrivée des communes nouvelles et le développement des communes nouvelles pourront être bénéfiques demain pour les communautés de communes? Et ensuite, est-ce que l'élection au suffrage universel direct des présidents des communautés de communes pourrait améliorer la situation et
Alors,
permettre
si
aux
vous ouvrez ce
citoyens,
débat,
voilà.
là, on va rester quelques jours ici à discuter, je pense.
Bah, voilà.
Mais
En
c'est
tout cas,
une vraie
j'aurais bien
question
aimé
qu'on ne
avoir.
résoudra pas ce matin, je
Non,
pense.
mais j'aurais bien aimé avoir quand même la
D'accord.
vision des
OK.
intervenants sur cette question qui, à mon sens, est prioritaire.
Merci, en
Merci.
tout cas, d'avoir synthétisé les questionnements qui sont les nôtres ce matin. On termine en vous donnant la parole. Là, on parlait des grandes intercos là, tout à l'heure. Alors, passons la barre. 92 communes, hein, le Grand Figeac.
Oui, bonjour, Saint-Lamarthe. Donc, je suis président du Grand Figeac, vice-président de la région. J'ai également été maire d'une commune de 200 habitants pendant 23 ans. Je connais un peu le sujet. J'ai d'ailleurs été précédemment président de la communauté de communes de ce territoire qui regroupait à peu près 19 communes, enfin, tout à fait 19 communes, mais à peu près 7 500 habitants. Sur l'exposé qui a été fait, de mon point de vue, plusieurs oublis. Sur le rappel historique, j'entends, je regrette que vous n'ayez pas évoqué la loi Marcellin et ses échecs, qui a proposé aux communes de pouvoir, dans les années 70, travailler sur un premier regroupement. On n'est plus en 1890, on est
Là,
en
c'était de la fusion, hein,
1970.
carrément.
Comment?
C'était de la fusion.
C'était de la fusion, mais ça a été un échec. Hein? Parce qu'on a quand même un problème dans ce pays, c'est l'opinion et le comportement. Il ne faut jamais l'oublier. On veut moins d'élus, mais vous voyez qu'il n'y en a jamais assez. Donc c'est quand même un souci. Donc ça a été un premier écueil. Le deuxième petit regret que j'ai, c'est que vous ne parlez pas du tout des moyens. Or, les lois qui ont été portées et la structuration intercommunale telle qu'on l'a vécue ici, de mon point de vue, elle s'est quand même faite autour des moyens qui nous échappent. Vous n'avez pas parlé non plus de la métropolisation. Parce que moi, je vais sortir du débat départemental. Mais en tant que conseiller régional, je vois ce qui se passe. Et je vois la métropolisation grandissante, les moyens aller vers ces métropoles, la péréquation qui disparaît au bénéfice des territoires ruraux. Les vraies questions, ce sont celles-là. On ne s'organise pas pour s'organiser. On ne fait pas les malins parce qu'on a 92 communes au lieu de 30. Moi, j'étais très bien avec 19 communes. Vous pouvez interroger les maires, ils sont tous là. Tous, les maires de la précédente communauté. On était très bien entre nous. Et si on l'a fait, ce n'est même pas pour nous d'ailleurs. Si on l'a fait, c'est à l'échelle d'un grand territoire. Parce que la communauté de Fidja Communauté à l'époque, qui avait des besoins de développement importants, notamment autour de la compétence économie, allait perdre beaucoup de moyens. Nous, nous étions gagnants dans l'équation. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Le souci qu'on a, effectivement, c'est que la loi NOTRe a posé les choses, mais elle n'a pas obligé une certaine forme de gouvernance. On a essayé ici, et j'en ai été l'initiateur, donc je suis heureux que vous l'ayez souligné, de mettre en place des territoires sur notre communauté. Donc on a plusieurs pôles territoriaux, on en a 6 aujourd'hui, et je dois dire qu'ils ne fonctionnent pas comme je le souhaiterais. Et dans les semaines ou les mois à venir, je vais faire des propositions. On l'a déjà discuté avec l'exécutif intercommunal, je vais en parler au bureau très prochainement. Mes propositions seront les suivantes. Je suis contre le saupoudrage, je vous le dis tout de suite, c'est assez facile quand on est à la tête d'une institution comme ça, de pouvoir faire un peu de saupoudrage. Moi, je suis contre. Je suis pour une communauté d'émulation. Le mot a été prononcé et je suis véritablement pour ça. Et si on a réussi à construire le Grand Figeac, c'est grâce, je l'ai dit dans mon propos introductif, c'est grâce au pays et au travail qui avait été fait. Mais pour l'avenir, pour aller très vite sur le sujet, je vais proposer à chacun des territoires qui réfléchissent autour de trois problématiques. Chez nous, vous savez, c'est assez simple. Hein, c'est le tourisme, l'agriculture, je les classe volontairement dans un ordre, le tourisme, l'agriculture et l'économie. On a des territoires qui sont beaucoup plus forts sur l'économie, d'autres sur le tourisme. En tous les cas, chaque territoire aura à discuter des projets qu'il veut porter et la communauté ira chercher les moyens pour pouvoir créer l'émulation à partir de ce niveau et remettre de l'intérêt, effectivement, aux décideurs les plus locaux possibles. Je comprends qu'il y ait de la distance. Nous sommes 126 conseillers communautaires. C'est très difficile d'organiser les débats. Depuis que je suis président, il y a un exécutif avec les 15 vice-présidents toutes les semaines, un bureau tous les mois et un conseil communautaire tous les mois. Malgré tout, je reconnais qu'il y a de la distance et je sais que ce n'est pas simple. Mais il faut effectivement essayer de travailler cet échelon, et c'est ce que nous allons, maintenant que nous avons nos pôles territoriaux, essayer de mettre en place. Et j'espère en tous les cas que ça répondra à une question. Parce que le risque qui serait celui de défaire nos communautés, on a besoin de temps, ça a été dit. On a besoin de beaucoup de temps pour construire. Et revenir en arrière à l'heure où on se parle, je crois que ça serait gravissime.
Alors, l'émulation, le projet. Vous dites on a besoin de temps. Alors nous, en revanche, dans le débat, on a explosé les horloges et on a pris beaucoup de retard. Mais c'était normal et il fallait vous entendre parce que je pense que le débat, il s'est fait comme ça. Et il s'est fait sur cette question des compétences, cette notion de bassin de vie. Qu'est-ce que c'est, monsieur le professeur? Les moyens aussi. Alors là, ça sera intéressant de vous entendre aussi, David Jez. Mais peut-être une première réaction à ce que vous avez entendu, Bernard Vauriac, comme membre du bureau national de l'AMF et puis président d'une association départementale. Vous êtes bien sûr retrouvé dans ce que vous avez entendu ce matin de vos collègues du Lot.
Ben, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu parce que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais ce que vous avez dit les uns et les autres, là, je pense qu'on est légitimiste quand on est maire. Donc, il ne s'agit pas de faire un haro par rapport à une loi qui est la nôtre. Même si elle n'est pas la nôtre, elle est la nôtre aujourd'hui. Et l'État est là aussi pour l'appliquer. Mais dans les CDCI, tu as dit que tu étais rapporteur général, je le suis aussi. Et je sais aussi que la non-discussion a entraîné l'éviction d'un préfet en Dordogne. Donc il faut aussi le prendre en compte, cela. C'est-à-dire que les territoires, il faut aussi les entendre. Il faut aussi les entendre. Et les entendre, ça veut dire que c'est excellent, le pôle territorial, là. Mais si c'est pour reconstituer une mini-communauté de communes ou commune nouvelle dans un truc qui est vachement grand aujourd'hui, qui est ingérable, c'est quand même pas la solution. Mais, crions... Je ne vais pas dire haro sur le baudet. C'est pas ça. Je dis on est légitimiste, donc il faut faire marcher la machine. Faire marcher la machine, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des moyens d'informer, parce que nos conseillers municipaux, à part les délégués qui participent, il y en a très peu, puisque c'est lié à la commune et à l'importance démographique de cette commune-là. 126 élus au conseil communautaire, c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'en ai que 38 et c'est imbuvable. Donc, non, mais c'est. Et puis, je me mets à la place de monsieur le préfet. C'est pas lui qui va régler tout ça. Mais dans la réalité, il faut que nous arrivions à trouver une formule. Alors, peut-être que vous l'avez avec les pôles, mais il faut qu'on donne de l'intérêt à ceux qui ne participent pas à la discussion.
Alors ça, c'est
et aux décisions.
Un enjeu effectivement à verser sinon, dans ce dossier.
Sinon, on va dans le mur.
C'est comment on associe les conseillers municipaux qui ne sont pas délégués communautaires, comment les maires.
Et je rappelle que l'Association des maires de France, elle défend évidemment les EPCMI, mais aussi les communes. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de vitalité dans les communautés de communes s'il n'y a pas de communes.
Marie-France Salle.
Oui. Je vais intervenir. J'ai entendu les collègues du Lot sur cette bataille. Alors, en Lot-et-Garonne, il faut savoir qu'aussi les CDCI ont été très, très mouvementés. Parce que la loi, et c'est toute quand même une discussion sur la loi imposait des seuils. Or, il y avait des communautés de communes qui n'atteignaient pas ces seuils, mais qui fonctionnaient correctement.
C'était votre cas.
Mais nous, on ne demande rien à personne. Pourquoi on vient nous obliger? Donc, voilà, c'était une grande discussion et je crois que cette imposition de seuil est quand même un élément qui devrait être réfléchi par nos élus nationaux et par ceux qui font les lois. Ensuite, effectivement, je veux dire que notre communauté de communes, Monsieur le Président, sur le principe, elle n'était pas contre de rejoindre une communauté d'agglomération. Mais ce qu'elle attendait, c'était un projet, et un projet qui l'intègre, qui associe l'urbain et le rural, mais qu'on ne soit pas, je vais le dire très crûment, mais qu'on ne soit pas simplement un apport, parce que cette communauté n'arrivait pas à 100 000, avec nous elle arrivait à 100 000, et voilà. Donc ça nous a un peu quand même fâchés, un peu vexés, de nous dire qu'on était la valeur d'appoint, mais qu'à aucun moment on ne réfléchissait sur un projet de développement et d'aménagement de tout ce territoire qui, nous, en Lot-et-Garonne, finalement, c'était bien parce que cette communauté d'agglomération allait correspondre au pays de la Genêt. Donc on était dans une adéquation parfaite. Mais voilà, donc je crois que les élus ruraux, si vous voulez, ce qui les a quand même un petit peu choqués, c'est qu'on ne les mette pas autour de la table pour réfléchir à un projet qui développerait l'ensemble de ce territoire. Et puis ensuite, il y a un autre élément, moi je crois, qui
Alors, je sais que la loi, bon, elle impose, mais ça aussi, c'est un élément, je crois, qui a beaucoup fait réfléchir et sûrement mis de l'animosité. Hein. C'est sur la représentativité strictement démographique. On a eu de grandes discussions, nous aussi, en CDCI, en Lot-et-Garonne, et personnellement, moi, je m'opposais et j'aurais souhaité que la loi entraîne une modulation. Je comprends très bien que les plus grandes collectivités, qui sont, comme l'a dit monsieur souvent, les principales pourvoyeuses financières, aient un poids qui soit supérieur à une commune comme la mienne ou une communauté. Mais la stricte représentativité démographique, sur une communauté où vous avez une commune principale qui fait plus de 30 000 habitants et toute une série de communes qui font moins de 300 habitants, vous comprenez que le poids, vous avez des communautés où sur 40 communes, 5 communes font la majorité. Voilà, ça c'est un élément, je veux dire, c'est à réfléchir parce que ça met, je dis que ça met du trouble dans le fonctionnement de ces collectivités et je trouve ça bien dommage parce que je pense et je suis intimement persuadée que nous devons travailler ensemble, le milieu urbain et le milieu rural. Donc voilà pourquoi ça m'a beaucoup. Mais je veux dire, les seuils, la représentativité, le mode de gouvernance, et là je suis d'accord et je ne connaissais pas votre fonctionnement, mais je pense que ça c'est à réfléchir et c'est une bonne chose quand on a un territoire qui est très étendu, qui est composé d'une multitude de communes, et notamment de petites communes, il faut que ces élus trouvent leur place, il faut qu'il y ait un mode de fonctionnement qui fait que maire ou conseillers municipaux, parce que moi, je n'oublie pas les conseillers municipaux. Parce que quand vous revenez dans votre conseil municipal devant vos collègues et qu'ils vous disent, la communauté, attends, excuse-moi, mais...
Et responsabilité du maire pour informer son conseil municipal aussi.
Mais on le fait, mais si eux ne sont pas impliqués dans le fonctionnement de la communauté, eh bien, vous aurez beaucoup de réticence et vous aurez beaucoup de retrait, de recul. Donc, je trouve qu'effectivement, les uns et les autres, il faut, et je suis d'accord, la loi, elle existe. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ne pourrons pas revenir en arrière. Donc, travaillons sur ce mode d'organisation, ce mode de représentativité. Et ensuite, effectivement, hier matin, il se trouve que nous avions en Lot-et-Garonne une assemblée générale extraordinaire de l'association des maires pour faire évoluer nos statuts. Et il y a deux points qui ont été mis à l'ordre du jour parce que l'association des maires veut jouer en différent. Un premier point, je ne sais pas si dans le Lot, vous avez une conférence des exécutifs, c'est le président du conseil départemental qui a créé cette instance de dialogue entre le département et les communautés de communes et les communautés d'agglomération. C'est une chose qui fonctionne bien, sauf que les communes ont dit « Mais pourquoi nous ne participons pas aussi à la conférence des exécutifs ? Pourquoi nous sommes exclus de ce dialogue, alors que vous débattez de questions qui intéressent l'ensemble du département, sur les infrastructures, etc. Et nous, représentants de la collectivité de base, nous n'en faisons pas partie. Donc c'était, voilà,
il y aura dorénavant... Nécessité que tous les territoires soient associés.
Dorénavant,
merci,
il y aura
Marie
des représentants... Voilà.
Alors là, je presse un
si
peu
peux,
le temps.
Si
hein,
je
parce
peux
que...
terminer, parce que j'ai entendu ce qui était...
Rapidement.
L'autre point, c'était les communes nouvelles. Ouais. Sachez qu'en Lot-et-Garonne, il n'existe pas de communes nouvelles. Toutes les tentatives qu'il y a eu ces dernières années ont échoué. Il y a deux types de tentatives. C'est les communes qui sont proches et qui veulent souhaiter faire. Et il y a eu une tentative de transformer une communauté de communes rurales en communes nouvelles. Pour différentes raisons, je crois que ni les élus municipaux, ni la population, et peut-être surtout la population, n'étaient pas prêtes. N'avait pas été préparé à cette
sur
évolution.
Sur les communes nouvelles, on voit des
Et je crois
des,
que de toute façon, on n'échappera pas au débat dans les mois qui viennent.
Ouais. Ce qu'on voit, c'est des départements comme la Manche ou le Maine-et-Loire, où là, ça a été viral et il y a énormément de... Mais puis des départements, effectivement, ça ne se passe pas. Jean-Marc Vesson.
Non, juste un mot sur l'accord local. C'est quand même incroyable, cette mesure qui crispe, c'est une réalité. Même les communes cendres, comme la mienne, on est d'accord pour proposer un accord local. Il existait auparavant. On ne peut plus le proposer. Pourquoi l'empêche-t-on ? Je sais bien qu'il y a une affaire de constitution, sans doute. Et dans ces cas-là, faisons évoluer la constitution. Mais pourquoi on ne permet pas, si c'est souhaité, si ça permet d'harmoniser, d'aller dans le bon sens, de nous laisser mettre en place des accords locaux sur notre territoire ? On a tous y gagné. Eh bien non, la loi aujourd'hui nous l'interdit désormais.
Et l'arrêt Salbris, etc., etc. Alors, David Jaize et puis Gérard-François Dumont. D'abord, David Jaize.
Bon, moi, je serai très rapide sur les communes nouvelles. Vous avez raison de poser la question. Lorsqu'on discute avec les artisans de l'intercommunalité des années 90, ils vous disent que l'accélération de l'intercommunalité s'explique par l'échec des communes nouvelles. C'est-à-dire que la loi Marcellin de 1971 à laquelle vous faites référence, elle n'a pas fonctionné. Et donc, dans les années 80, on a un peu changé de braquet. On s'est dit peut-être que pour développer des entités capables d'agir avec plus de puissance, on va le faire sur la base de la coopération intercommunale parce que les communes ne fusionnent pas. Depuis la loi Marcellin, il y a eu un deuxième dispositif, celui des communes nouvelles. Il est diversement approprié, effectivement, ça dépend beaucoup des histoires et des départements. La seule conclusion qu'on peut en tirer à ce jour, c'est que les communes nouvelles qui fonctionnent, c'est les communes nouvelles qui ont vraiment une vraie complémentarité, à la fois géographique, sectorielle, etc., et qui sont bâties sur un vrai projet. Or, on assiste à une prolifération de communes nouvelles qui sont souvent défensives, c'est-à-dire parce qu'on veut empêcher une annexion.
On veut exister dans une grande interco, voilà, et peser un peu plus lourd.
On veut exister dans une grande interco. Parfois, il y a des calculs politiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a des histoires de rivalité entre eux. Et en général, ce qu'on constate, alors on n'a pas beaucoup de recul hein, pour faire l'évaluation de ces communes-là, mais c'est que ces communes nouvelles-là ne fonctionnent pas. Sur la question du partage commune-intercommunalité, je pense que si on a une approche par les finances locales, on peut éventuellement trouver une voie d'amélioration. S'agissant de la fiscalité, donc aujourd'hui, il y a une réforme en cours de la taxe d'habitation. On n'en a pas encore ni le point d'arrivée ni le point d'atterrissage, mais qui va vraisemblablement emporter une modification du paysage fiscal. Une solution ou une piste, en tout cas, pourrait être de dire que si on veut consolider le fait communal, il faut que les communes gardent de la fiscalité propre et, si possible, de la fiscalité qui est versée par les habitants, en l'occurrence, les taxes foncières. Quant aux intercommunalités, qui sont avant tout des aménageurs, des développeurs, etc., on leur donne la fiscalité économique. Si on a un partage plus clair entre fiscalité des particuliers pour les communes et fiscalité économique pour les intercommunalités, les modalités précises hein, restant à discuter et à arbitrer, on peut imaginer d'avoir vraiment un fait communal consolidé sans pour autant détricoter et défaire ce qu'on a fait avec les intercommunalités. Dernier point, sur la démocratisation, effectivement, je pense que c'est absolument nécessaire, même dans des interco XXL, que tous les maires se sentent participer au travail collectif, que tous les conseillers municipaux puissent siéger dans les commissions. Alors, je ne sais pas comment vous faites avec votre interco, mais ce qu'on voit dans d'autres départements, c'est des réunions de maires. C'est-à-dire qu'on réunit l'ensemble des maires de l'interco pour discuter des projets. Et c'est une instance supplémentaire par rapport au conseil communautaire ou au bureau, où effectivement...
Conférence des maires.
Voilà, conférence des maires. Les bureaux, on a de moins en moins de monde en plus qui siègent. Donc, effectivement, ça peut être frustrant pour un grand nombre d'élus. Et donc, il faut s'ouvrir à l'ensemble des communes et des conseillers municipaux.
Merci. Alors, le dernier mot à Gérard-François Dumont pour lui demander de répondre très rapidement à des questions comme une définition du bassin de vie là, qui a été évoquée, le transfert des compétences et puis les moyens pour ces intercos.
Non, mais le bassin de vie, il faut comprendre qu'on est dans un monde réticulaire. Donc,
on est en réseau aujourd'hui.
J'ai pas le temps de développer cette question. En revanche, je vous remercie pour la richesse de ce débat et je ne répondrai qu'à 2-3 points. Bon, d'abord, j'ai envie de venir au secours de Monsieur le Préfet. Supposez que la loi NOTRe ait écrit « L'organisation de l'intercommunalité sera décidée à l'échelon des régions ». Finalement, en Allemagne, ce sont bien les Länder qui décident de leur organisation du territoire. Certains ont gardé des communes, d'autres les ont fusionnées, etc. Ouais. Deuxième point qui m'étonne un peu, parce que j'ai cru comprendre, je vais peut-être me faire huer, mais j'ai cru comprendre que certains pensent que la loi NOTRe, c'est la charia. Elle est intouchable. Je vous rappelle qu'elle a déjà été touchée. Et elle a été touchée sur un point que j'avais évoqué dès juin 2014 lors de mes auditions au Parlement sur la question des stations de tourisme, c'est-à-dire sur la non-obligation de l'intercommunalité des offices de tourisme, parce qu'effectivement, le Russe qui veut aller en vacances à Megève, vous pouvez toujours lui proposer Combloux, ça ne l'intéresse pas. Bon. Alors, effectivement, il ne s'agit pas, Monsieur le maire a très bien posé la question, peut-on revenir en arrière? Ce n'est pas là le problème. Le problème, si je peux me permettre, Monsieur le maire, c'est peut-on revenir au bon sens? Revenir au bon sens. Alors, est-ce que d'autres l'ont fait? La réponse est oui. Regardez ce qui s'est passé en Suède, qui avait organisé dans les années 80 une fusion des communes, qui a constaté la dégradation que ça a engendré au point de vue de la démocratie locale, avec une augmentation des taux d'abstention, avec une augmentation des taux d'abstention encore plus fort dans les territoires périphériques, eh bien, ils ont défusionné un certain nombre de territoires. Enfin, Madame la vice-présidente, vous étiez à Marseille comme moi, donc vous avez entendu comme moi. Que se passe-t-il à Marseille? Alors, ça peut paraître très loin du Lot, mais il y a une démarche quand même qui est en train de se mettre en place sur laquelle il faut réfléchir. Vous savez en effet que l'État a imposé une métropole d'Aix-Marseille, deux villes qui se détestent cordialement depuis des siècles, puisque j'ai encore relu des auteurs du passé qui le rappelaient, qui représente en gros 80% des communes des Bouches-du-Rhône. Et donc, il y en a 20% qui sont en dehors de la métropole d'Aix-Marseille. Et qu'en même temps, donc, le président de la République, lorsqu'il était candidat à la présidente de la République, a écrit dans son programme, en gros, je garde les trois quarts des départements, et puis pour un quart des départements, bah, ils vont disparaître, soit par des fusions.
Sur une base volontaire, précisément.
Avec des métropoles. Effectivement, il souhaiterait faire avancer ce dossier. Vous avez vu qu'il a reçu récemment des présidents de métropoles, que d'ailleurs, il y a eu un résultat très important, au moins porté à notre connaissance, puisque la présidente de la métropole de Nantes a dit « Mais moi, fusionner avec le département de Loire-Atlantique, ça ne m'intéresse pas. » Et puis, il est venu à Marseille avec Mme Merkel et donc il a pu discuter avec la nouvelle présidente de la métropole Aix-Marseille, qui est en même temps présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et il lui a dit qu'il souhaitait voir avancer le dossier de la fusion entre la métropole d'Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône. Et en gros, qu'est-ce qu'a dit cette présidente à notre président de la République? Elle dit, écoutez, ce que vous proposez n'est pas aberrant, puisqu'il n'y a que 20% des communes en dehors de la métropole, mais cela n'a de valeur qu'à condition de conserver les avantages de la proximité. Donc, si on fait un département métropole des Bouches-du-Rhône, je ne veux absolument pas la solution lyonnaise. Je veux une métropole qui s'occupe des questions stratégiques, mais je veux la possibilité de redonner des compétences aux communes pour qu'elles s'occupent de l'ensemble des problèmes de proximité. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de raison que les choses soient figées. Il faut faire avancer vers le bon sens ces lois.
Et là, il y aurait un consensus entre
il semblerait,
les deux,
évidemment, je n'étais pas dans
protagonistes.
Le bureau, mais j'ai cru comprendre quand même des discussions que j'ai eues également au conseil départemental de Marseille, des Bouches-du-Rhône, pardon, veille du congrès des régions de France, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas eu de réponse négative et qu'il y avait eu la volonté commune
donc
d'avancer.
Donc ce que vous nous dites, voilà, c'est qu'une des pistes, c'est de rééquilibrer les compétences.
C'est
aussi
de rééquilibrer les compétences. Alors permettez-moi simplement, en conclusion, j'ai juste une phrase à vous lire.
Et ça sera
la dernière. Donc je replonge très souvent dans l'histoire, malgré ce qu'a dit monsieur sur 1890. Et donc, en 1879, un membre de l'Institut, Léonce de Lavergne, s'intéresse aux questions territoriales. Et voilà ce qu'il écrit, qui est toujours d'une actualité brûlante. J'ouvre les guillemets. La plupart de ceux que préoccupe l'excès de notre centralisation remontent pour la combattre au souvenir des pays d'État. Donc, les pays d'État, si vous voulez, c'est donc les provinces qui avaient une certaine autonomie avant que l'ancien régime devienne hyper centralisé. Mieux vaut faire appel à d'autres exemples. Ce n'est pas l'étendue des circonscriptions qui compte, c'est l'étendue des attributions qui importe.
Voilà, tout est dit. Merci, monsieur le professeur. Merci, madame. Merci, messieurs. On va passer avec beaucoup de retard à une autre séquence de notre matinée. Mais avant, on va retrouver une initiative. Ma commune a des idées pour le Lot. Et cette fois, on va à Villesèque pour la première réserve civique du Lot.